l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Kim travaille dans une grande entreprise du secteur des technologies de l'information. L'année dernière, il est parti en voyage d'affaires en Chine, ce qui l'a fait vivre pendant 4 mois isolé de l'extérieur. Car, en raison des mesures préventives contre le COVID-19, il a dû rester pendant 3 mois dans ce pays, enfermé sur son lieu de travail et dans son hôtel. Après le retour en Corée du Sud, il était encore obligé d'être confiné pendant 1 mois à domicile. D'après Kim, avant, les salariés souhaitaient partir en voyage d'affaires ou être affectés dans les filiales de leur firme à l'étranger. Mais maintenant, la situation a changé et ils font tout pour l'éviter. Autrefois, les salariés voulaient partir en voyage d'affaires dans les pays étrangers où ils travaillaient en tant qu'expatriés, car ils estimaient que cela permettait d'avoir des expériences professionnelles internationales et d'expérimenter diverses cultures étrangères. Or, aujourd'hui en particulier, depuis la propagation du coronavirus, les inconvénients qui en résultent, tels que le risque de contamination et les conditions de vie moins bonnes que celles du pays du matin clair, l'emportent sur ses avantages. Selon un sondage, 84% des entreprises rencontrent des problèmes dans leurs affaires à l'étranger. Et comme raison, 38% ont évoqué le fait que leurs employés évitent de se rendre dans les pays étrangers. La première cause de ce rejet est la crainte de l'infection au coronavirus. À l'exception de quelques pays, ils pensent qu'ils seront plus exposés au risque de contagion à l'étranger que dans leur pays. En effet, sur les chantiers de construction en Arabie Saoudite, en Russie et en Pologne, de nombreux travailleurs sud-coréens ont été infectés par la maladie. En outre, en Irak, plusieurs employés du pays du matin clair ont été contaminés en masse et le gouvernement sud-coréen a envoyé un avion affrété pour les rapatrier. Le confinement obligatoire d'au moins 2 semaines fait aussi partie des causes du refus. Selon les pays, au moment de l'arrivée, il faut être confiné pendant 2 semaines. Après être retourné en Corée du Sud, ils doivent de nouveau se placer en autoconfinement à domicile pendant 2 semaines. Quant aux jeunes nés entre le début des années 1980 et le début des années 2000, ils ont aussi tendance à éviter de travailler à l'étranger. Car ils estiment que les conditions de vie et l'environnement culturel de leur pays sont meilleurs qu'ailleurs. En outre, ils pensent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des expériences professionnelles dans les pays étrangers. Depuis l'adoption de la semaine de 52 heures au pays du matin clair, qui a considérablement amélioré les conditions de travail, les travailleurs se montrent négatifs vis-à-vis du séjour à l'étranger où ils sont soumis à la loi locale qui est parfois désavantageuse pour eux. S'y ajoute la diffusion des visioconférences. La plupart des compagnies s'occupent même des affaires importantes comme l'acquisition fusion à travers cette méthode. Et cela devrait forcément faire diminuer les expéditions de personnel ou les voyages d'affaires à l'étranger. Beaucoup souhaitent se marier dans une forêt paisible ou dans un jardin en organisant une petite cérémonie entourée de leurs proches. Mais ce n'est pas facile de trouver un tel endroit. De plus, en raison du COVID-19, un grand nombre de couples ont dû reporter ou annuler leur cérémonie de mariage. L'Agence régionale de l'environnement de Daegu et la compagnie de gestion des parcs nationaux du Mont Unmun ont annoncé une bonne nouvelle pour eux. Elles aideront les jeunes couples qui n'ont pas pu organiser de cérémonie de mariage à cause de l'épidémie, mais qui veulent tenir une cérémonie de petite envergure dans la nature. Elles recevront des demandes sur leur site web jusqu'à la fin du mois pour sélectionner 4 couples bénéficiaires. Les cérémonies auront lieu fin mai. Ces petites cérémonies de mariage dans la nature se tiendront sur le mont Unmun dans la province de Gyeongsang du Nord. Le lieu de l'événement, situé à 20 minutes à pied du parking de la montagne, est un petit espace à côté d'une vallée. En fait, c'est une zone de préservation écologique auquel l'accès du public est interdit. Mais pour l'occasion, elle sera exceptionnellement ouverte à ceux qui assisteront à ces cérémonies. Bien que ces événements se déroulent au cœur de la montagne, les participants devront respecter les règles de prévention contre le coronavirus, comme la distance sociale, le port du masque et l'établissement d'une liste de visiteurs. Et le nombre de personnes qui assisteront à chaque cérémonie sera limité à 15, y compris les mariés. Étant donné que le lieu de l'événement est une zone protégée, il n'est pas possible d'y prendre le repas. Mais du thé et des gâteaux seront offerts aux invités. Les mariés pourront emprunter des costumes traditionnels coréens comme des tenues de mariage. Et un photographe professionnel prendra leurs photos. Tout cela sera gratuit. Ce type de petites cérémonies de mariage auront également lieu dans une dizaine d'autres parcs nationaux du pays, tels que les parcs des montagnes Kaya, Warak et Sobek. Après avoir reçu des demandes de nouveaux mariés, les institutions concernées choisiront au total 40 couples pour leur offrir un souvenir inoubliable. Im apprend le ballet comme passe-temps. Il y a quelques jours, elle s'est prise en photo dans un studio sans photographe. Dans l'espace photo de cet établissement, il n'y a qu'un appareil, un équipement d'éclairage et un écran sur lequel on peut vérifier les images prises. Il n'y a aucun photographe pour appuyer sur l'obturateur. Dans ce studio, Im, en tenue de ballet, s'est photographiée pendant 30 minutes. Elle dit qu'elle a pu avoir de meilleurs résultats en prenant des poses comme elle voulait et en se voyant sur l'écran au lieu de poser selon les instructions d'un photographe. Les studios sans photographe se multiplient ces derniers temps. Dans les studios classiques, les photographes donnent des consignes sur les poses et les expressions du visage et appuient sur l'obturateur au bon moment. Par contre, dans les établissements sans photographe, se trouvant seul, chaque client se prend en photo à l'aide d'une télécommande liée à l'appareil photo. Kim, une salariée de 32 ans, vient de voyager sur l'île de Jeju. Elle a réalisé, dans un studio sans photographe, des clichés souvenirs en tenue de haignant, ces femmes plongeuses en apnée à la recherche de produits de la mer. Puisqu'il n'y avait personne sauf elle-même, elle ne se sentait pas gênée, donc elle a pu poser comme elle voulait et obtenir des images naturelles. En effet, ce genre de studio permet aux utilisateurs de se changer au cours de la prise de photos ou de prendre des photos de bébés ou d'animaux de compagnie plus facilement et confortablement. En fait, aujourd'hui, on peut se prendre en photo facilement avec son smartphone. De ce fait, l'industrie de la photographie est en déclin. Selon les données du Bureau national des statistiques, en Corée du Sud, le nombre de studios de photos est passé de 13 000 en 1999 à 9 800 en 2019, à savoir une diminution de 26 % en 20 ans. En revanche, le nombre de ceux sans photographe augmente rapidement. En 2018, il n'y en avait qu'une dizaine à Séoul, mais maintenant leur nombre a dépassé les 300. Sur les réseaux sociaux, on peut trouver plus de 100 000 textes liés à ce type d'établissement. Cela montre qu'ils sont devenus tendance chez la jeune génération. À propos de ce phénomène, les spécialistes expliquent que les jeunes considèrent les studios de photos non seulement comme des espaces pour prendre des photos, mais aussi comme une sorte de terrain de jeu. Étant donné qu'ils ont un grand désir de s'exprimer, ils préfèrent ces établissements qui leur permettent d'avoir des clichés qui montrent bien leurs particularités.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 21 avril, vous êtes en compagnie de Ko Jung-sun. No est élève de terminale. Quand elle s'assoit à son bureau pour travailler chez elle, la première chose qu'elle fait est d'ouvrir une application qui enregistre son temps de travail de chaque jour. Ce logiciel affiche en temps réel le nombre de membres lycéens qui sont en train de travailler et cela la stimule et la motive à étudier. Selon nous, avant, ses heures de travail variaient en fonction de son état de santé ou de son humeur. Maintenant, elle étudie assidûment pendant 6 ou 7 heures par jour. Ce programme montre un classement des membres qui ont travaillé le plus longtemps. Désireuse de figurer dans cette liste, No commence parfois à étudier dès 5 heures du matin. Maintenant que l'utilisation des bibliothèques et des salles de lecture réservées à l'étude individuelle est devenue difficile à cause de la crise sanitaire actuelle, ceux qui étudient seuls à leur domicile se rassemblent dans les salles d'études virtuelles. Certains d'entre elles utilisent un système de visioconférence pour se trouver en face à face en ligne. Les membres doivent se montrer en train de travailler aux autres à travers une caméra de l'ordinateur. Che est étudiant. Chaque soir, il ouvre un logiciel de visioconférence pour retrouver les 10 membres de son groupe de travail. De 21h à 23h, ils se plongent dans leur étude devant leur webcam allumée. Che estime qu'il peut se mieux concentrer comme ça, comme il se trouvait dans une bibliothèque. Après leur travail, les membres discutent librement de ce qu'ils ont étudié et s'encouragent les uns les autres. La préférence pour les applications d'études en ligne varie selon les tranches d'âge. Les adolescents plébiscitent celle avec une fonction de communauté en ligne qui permet aux utilisateurs de poser des questions sur leurs études, de livrer leurs inquiétudes aux autres ou de parler des groupes d'idoles qu'ils adorent. Les individus d'une vingtaine d'années, de leur côté, apprécient des logiciels proposant des fonctions permettant de bavarder entre les membres, de contrôler les présences et d'attribuer ou retirer des points selon l'assiduité. D'après un sondage, ils aiment ce type d'application parce qu'elles permettent d'étudier ensemble, de se stimuler, d'augmenter le temps de travail et d'améliorer leur concentration. Les jeunes d'aujourd'hui utilisent une manière d'étude différente de la génération précédente. Ils ne prennent pas de notes sur le papier avec un stylo. Ils téléchargent des plans de cours et des documents nécessaires et ne les impriment pas. Ils les affichent sur l'écran de leur appareil mobile et y prennent des notes directement. Et certains remplacent même des cahiers d'exercices en version papier par des applications mobiles. Les spécialistes expliquent que cette tendance montre que la jeune génération s'adapte rapidement à l'innovation numérique en cherchant des méthodes personnalisées. À ce propos, il note que le milieu éducatif devrait réfléchir sur des pédagogies efficaces qui conviendraient à ce changement. Les cafés sont des endroits très convoités par les gens d'aujourd'hui. Ce sont en principe des espaces où on prend des boissons. Mais ils ne s'y limitent pas et continuent d'évoluer pour attirer l'attention des clients en leur procurant du plaisir. La tendance actuelle est un concept particulier qui est loin d'être ordinaire, ce qui permet notamment de retenir l'attention des jeunes qui donnent de l'importance aux expériences nouvelles et peu communes. Voici quelques cafés populaires qui sont dernièrement beaucoup évoqués sur les réseaux sociaux. Au centre de Séoul se trouve un café baptisé le Temple d'Ungnyo. Son concept est inspiré d'un mythe coréen. Selon ce mythe, un ours qui voulait devenir humain a prié Dieu. Ce dernier lui a dit de rester enfermé dans une grotte pendant 21 jours en mangeant seulement des armoises et de l'ail. L'animal a réussi à le faire pour se transformer en femme et Dieu lui a donné le nom d'Ungnyo. Ce café est ainsi décoré comme une grotte. Son extérieur ressemble à un mur. Si on appuie sur un bouton, la porte s'ouvre. À l'intérieur, il fait noir. Les murs ressemblent aussi à ceux d'une grotte. Et sur le plafond sont suspendues des gerbes d'armoises. Depuis son ouverture en janvier dernier, il est bien connu parmi les internautes. Un autre café peu ordinaire est situé dans le sud de la capitale. Son enseigne est le café Chungmugong. Chungmugong désigne l'amiral Yi Sun-shin de l'époque de Joseon. C'est un héros national qui a sauvé le pays de l'envahisseur japonais au cours de la guerre Imjin de 1992 à 1998. À l'intérieur est installé un bar sous forme de Kobukson, navire en forme de tortue conçu par l'amiral. Avec un éclairage de couleur bleue sur le sol, il donne aux clients l'impression d'être à bord d'un Kobukson qui navigue. Les boissons et les desserts sont servis dans des tasses et des assiettes en céladon. Un café dans l'est de Séoul a pour thème un train transsibérien. Il est décoré comme un wagon de train. Sur un mur de l'établissement est installé un écran géant qui montre des images et cela donne l'impression de voir le paysage à travers la fenêtre du train. On peut même admirer le désert de Gobi projeté sur l'écran. Le paysage et les couleurs qui continuent de changer divertissent les clients. En prenant du café, ils peuvent se souvenir de leur voyage en train qu'ils ont fait à l'étranger. Il y a aussi un café qui a une atmosphère pieuse. Il se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation situé dans le nord de la capitale. Avec des chaises qu'on trouve dans les chapelles, des vitraux, un éclairage doux et une musique grandiose, son intérieur fait penser à une église catholique où on entre par hasard au cours d'un voyage dans un pays européen. Jeudi dernier, vers 19h, les membres du groupe de musique Nongbenjos se sont réunis dans une salle du centre municipal pour malentendants de Seotaemun à Séoul. Nongbenjos est un groupe composé de malentendants dirigé par l'établissement. Son nom est la composition du mot Nongainbend, qui signifie groupe de malentendants, et du mot anglais Avengers, qui fait référence au film américain du même nom, traitant d'une équipe de super-héros. Le groupe a été créé en 2015 pour faire connaître l'existence d'un groupe de musique de malentendants aux personnes sans handicap qui se posent la question « Comment peut-on faire de la musique si on ne peut rien entendre ?» Il a commencé par une communauté de personnes ayant un handicap auditif qui aiment la musique, l'apprennent et en jouissent. Quand tous les membres sont atteints de surdité, ils apprennent la musique en s'appuyant sur une audioprothèse et leur capacité auditive restante. Depuis sa première représentation en 2015, il a continué de se produire. Mais depuis la crise sanitaire du Covid-19, il n'a plus d'occasion de monter sur scène. Cette année, il recrute de nouveaux membres qui joueront la guitare basse et la guitare électrique. Mais ce n'est pas facile parce que les malentendants ont eux-mêmes un préjugé selon lequel la musique appartient aux gens qui peuvent entendre et qu'elle n'a rien à voir avec eux. Cependant, le professeur de musique du groupe Kim Sang-wook a affirmé que rien n'était impossible si on essaie de le faire. Selon lui, tout est possible si on le fait lentement.
Bonsoir à toutes et à tous. Le réalisateur vétéran mais toujours sur la brèche, Lee Junik, est de retour avec le film The Book of Fish. Un film qui se confronte à un sujet de plus en plus sensible en Corée du Sud, l'histoire. Mais Lee a beaucoup de cordes à son arc. Il est passé des blockbusters du roman national aux films anarchistes indépendants, des films sur les musiciens rebelles qu'il vénère, aux biographies historiques, sans compter les comédies entre amis. Bref, ce réalisateur est devenu incontournable dans le cinéma local sans pour autant avoir reçu la reconnaissance internationale qu'il mérite. C'est ce que nous allons voir. Il est clair qu'au début de sa carrière, Lee Junik n'était pas vraiment certain de ce qu'il faisait. Après des études avortées de peinture à l'université Sejong de Séoul, il semble plutôt s'intéresser à la production qu'à la réalisation elle-même. En 1993, à 34 ans, il tente le coup avec Kid Cop, une comédie à l'américaine sur des enfants. Ce n'est pas mauvais, mais sans plus. Il retourna à la production avec Spy, et surtout Anarchist, en 2000, un film écrit par Park Chan-wook. Hélas, le film, embourbé dans les reconstitutions historiques alambiquées, ce sera le problème de Lee Joon-hik durant toute sa carrière, n'est pas un succès. Il a l'idée de produire des comédies en costume avec des effets fantastiques. Ce sera Aïe Dharma et Once Upon a Time in a Battlefield, qui remportera un petit succès et stabilisera la carrière du cinéaste. En 2005, Lee tourne King and the Clown, qui inaugure de multiples façons cette nouvelle période du cinéma sud-coréen. Un blockbuster renouvelant le roman national, l'introduction de l'homosexualité entre hommes et des hommes fleurs, et le portrait d'artistes rebelles à toute autorité. Cela fait beaucoup pour un seul film, mais Lee a réussi son pari, de détourner la stratégie dominante vers ses propres objectifs. Il enchaîne d'ailleurs avec un petit film sur des musiciens, Radio Star. Il va alors alterner la production et la réalisation avec à peu près toutes sortes de films. Mais sa dominante reste le contexte historique, toujours dans la veine de la restauration traditionnaliste du roman national. Citons notamment les films Blades of Blood, le catastrophique Battlefield's Heroes et The Throne. Malgré les succès, il passe par une crise personnelle et déclare vouloir abandonner le cinéma. Certains évoquent l'échec de certaines de ses productions, mais on peut y voir aussi l'échec critique de Lee, qui est plutôt un artiste et un intellectuel. S'il aime les artistes et l'histoire, il lui faut cesser de broder le roman national. Ce sera sa dernière étape. La nouvelle phase de la carrière de Lee, qui a décidé de revenir au cinéma, commence avec le film Hope, en 2013. Ce mélo est basé sur un horrible fait divers, le viol dans les toilettes d'une église d'une fillette de 8 ans. À moitié éventrée, la victime survit de justesse. Le violeur est un récidiviste connu, mais n'écope que de 12 ans de prison. Le procureur en charge de l'affaire s'avère une catastrophe et maltraite la petite convalescente. L'affaire fait scandale dans le pays. Sorti 5 ans après, le film avec la star Sol Kyung-woo est un succès, notamment en renversant l'habituel opprobre qui pèse sur les filles violées. Lee Joon-hik se lance alors sur des projets à petit budget avec des sujets historiques sérieux. Deux films importants de Lee qui resteront parmi ses meilleurs, moins du fait de la réalisation que de leur sujet, sont Dongju, The Portrait of a Poet et Anarchist from the Colony, qui traitent d'un autre poète, Park Hyol. Dans le premier, Lee dépoussière l'image d'épinal très scolaire du poète. Il n'est plus seulement une icône anti-impérialiste, mais aussi un homme avec ses plaisirs et ses misères. Quittant le noir et blanc de Dongju, Lee fait un film haut en couleur pour célébrer les amours rebelles des anarchistes Park Hyol et Kaneko Fumiko. Sous le couvert d'une comédie surfant sur l'anti-japonisme officiel, le film relate la vie tumultueuse des Bonnie and Clyde d'Asie dans les années 1920. Pour la première fois, l'international est entendu dans un film sud-coréen, même si c'est en japonais. Bizarrement, Lee Joon-hik enchaîne sur un film de copain, Sunset in My Hometown. Ce millimélo entre potes est un flop pour le réalisateur. Quoi qu'il en soit, Lee enchaîne toujours dans sa verve historique sur The Book of Fish et le portrait d'un ermite néo-confucianiste, Jong Yak-jun. En but à l'idéologie officielle, ce dernier décide d'écrire un livre sur les poissons avec l'aide d'un jeune pêcheur. Tourné en noir et blanc, le film retrouve la star Sol Kyung-woo et un réalisateur est toujours sur la brèche.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jung-sun avec Oh Ha-young à la réalisation. Merci de votre fidélité à KBS World Radio. Excellente soirée à tous!